Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
On est en train de mettre le mois d'octobre de côté avec cette édition de Ça vaut le détour du 30. C'est Kamal Salifou qui démarre l'émission. Jean-Sébastien Laliberté va se joindre à nous. Le retour de M. Laliberté, qui a travaillé comme ça pour le bien de la société québécoise. Quand il est parti, il y avait une Madame Laliberté. Il revient avec une Eva Laliberté en plus d'une Madame Laliberté. Donc, on est bien content. Kamal qui va, lui, nous quitter pour quelque temps. Pour d'autres raisons, peut-être un petit peu moins tristes, mais on va penser à vous, M. Salifou. Aujourd'hui, petit retour sur le sommet que Kéroul avait convié la semaine dernière. On en a parlé, on va y revenir avec la présidente du conseil d'administration, Isabelle Ducharme, qu'on aime bien contacter. D'ailleurs, Isabelle qui a dit oui pour co-animer Accès libre en décembre. Nous allons également regarder avec Marie-Josée Blanchette les possibilités de rendre les pourvoiries du Québec accessibles. Il y en a, vous le savez, qui ont commencé à travailler fort pour offrir aux clients qui ont des limitations fonctionnelles la possibilité de vivre de belles expériences plein air, villégiature. Il y a Normande Gagnon qui a fondé l'Association québécoise des personnes de petite taille à qui l'on va parler un petit peu plus tard. Vous le savez, c'est le mois du nanisme. Normande qui a plus de 80 ans, qui en a vu des choses, des gens, des comportements. On va revenir là-dessus. Mais on a voulu inviter Catherine Blanchette d'Allaire parce que, bon, entre autres, elle m'a dérangé deux fois pour aller faire un petit vidéo. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, vous avez dérangé pas mal de monde, vous.
Oui.
Puis ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez.
Comme je le souhaitais, effectivement.
Oui, oui. Catherine qui a lancé On roule au Québec il n'y a pas si longtemps. Et je vous dirais, Catherine, que lorsqu'il est question d'accessibilité urbaine, que ce soit avec la ville, que ce soit avec un ou deux arrondissements, principalement dans le centre-ville, les gens vous connaissent. Et oui, les gens disent du bien de vous. Donc, On roule tranquillement, fait sa place dans les éléments, dans les outils à utiliser lorsque vient le temps de causer accessibilité. Moi, j'ai une question pour vous, parce que là, vous nous demandez, dans une opération sociofinancement, 60 000, qu'est-ce que On roule offre que ce soit la plateforme du Centre Lucie Bruno, que ce soit la route accessible de Kéroul, que ce soit... n'offre pas. Pourquoi je donnerais des sous à On roule alors que ce que Lucie Bruno m'offre me coûte rien et on me dit si la piscine est accessible ou pas?
Bien, premièrement, le site d'On roule est gratuit. Donc, On roule est gratuit, ne coûte rien pour l'utilisation. Deuxièmement, On roule est générique, en ce sens que Kéroul est dédié au tourisme. Donc, c'est un outil qui est extraordinaire quand vient le temps de trouver des musées, aller à travers le Québec, trouver des hôtels qui sont accessibles pour le tourisme. De même que Lucie Bruno, qui est au niveau médical, au lieu de loisirs. Et donc, c'est des outils qui sont très spécifiques. Mm-hmm. Mais quand vient le temps de trouver un magasin de linge qui a une salle de siège accessible, quand vient le temps de trouver un dentiste accessible, quand vient le temps de trouver un comptable accessible, c'est un ensemble de besoins qui sont réels, qui font partie du quotidien et qu'on a... En fait, que jusqu'avant qu'On roule arrive, ça ne touchait pas. On roule fait aussi un calendrier des activités accessibles. Ah. Parce que c'est bien beau avoir des endroits qui sont accessibles, mais c'est quoi les festivals qui ont des places réservées? C'est quoi les événements, les spectacles, les formations? Parce que plusieurs formations qui se donnent, mais on ne sait jamais si elles sont accessibles ou pas. Ouais. Donc, On roule essaie de faire ça. Et il y a le nouveau volet, en fait, qui est entré l'année passée, là, mais qu'on va plus de l'avant de ce côté-là, c'est au niveau du logement. Parce que se trouver des logements qui sont adaptés à nos besoins, c'est pas évident. Et de l'autre côté, il y a des OBNL, des coop d'habitation, pardon, qui, eux, ont de la misère. Moi, je connais quelqu'un qui est dans la région de la Montérégie qui a construit 20 logements adaptés, parfaitement adaptés, salle de bain, comptoir abaissé, interrupteur et tout. Et malheureusement, il n'a pas réussi à louer à aucune personne à mobilité réduite.
Parce que les gens ne le savent pas, question timing...
Parce que les gens, principalement, ne le savent pas parce qu'il n'y a pas de pont de communication efficace entre les deux. On parlait dernièrement, je ne me souviens plus avec qui, mais de quelqu'un qui cherchait un logement accessible à Montréal sur Kijiji, puis c'est le bordel, parce que le Kijiji n'est pas fait pour mettre en valeur l'accessibilité des différents logements. Donc, c'est toujours J'essaie, je me lance, puis on verra sur quoi je vais tomber. Tandis que le répertoire d'un rôle met en valeur chacun des éléments d'accessibilité pour que les gens le sachent.
Comment générez-vous toutes ces informations-là? Est-ce que les gens ont pris le réflexe lorsqu'on veut faire connaître notre activité, notre logement, notre magasin, de vous envoyer l'information pour que vous l'affichiez, ou c'est vous qui devez cogner de porte à porte pour, en disant « êtes-vous accessible? »
Je dirais que le vent commence à tourner. Au départ, c'était nous qui cognait aux portes, qui faisait de la sollicitation pour dire « inscrivez-vous gratuitement, faites-nous connaître vos informations ». Maintenant, j'ai de plus en plus d'organismes qui m'envoient leur programmation mensuelle de façon à ce que je l'ajoute au calendrier, donc pour faire connaître leurs différentes activités. Et là, maintenant, j'ai de plus en plus de commerces qui s'inscrivent par eux-mêmes parce qu'ils entendent parler de la ressource et donc ils font la démarche eux-mêmes de leur côté pour s'inscrire sur le répertoire, ce qui est, à mon sens, assez merveilleux.
Mmh. Vous êtes seul ces temps-ci, je dis ces temps-ci parce que bon, des fois, vous avez de l'aide, ça dure un temps, après ça, les gens, bon, évidemment, on se trouve de l'emploi ou le petit grandit puis on a besoin d'être plus présent dans la famille. Donc, c'est difficile. Comment faites-vous pour tenir ça actif et en même temps en faire la promotion? Parce que c'est une chose de faire connaître l'outil puis une autre chose de le rendre fonctionnel. Ce qui est deux choses bien différentes, la promotion et l'exécution.
La réponse, je dirais que c'est que je travaille 7 jours sur 7.
Okay. Okay.
Disons que j'ai un horaire de temps très chargé. En gros, c'est un gros projet. Et oui, c'est pas évident de faire à la fois l'entrée de données, à la fois la mise à jour et à la fois la promotion et la sollicitation.
Là, qu'est-ce que... Bon, le petit vidéo, là, il n'est pas encore complété, mais c'est une demande, c'est une invitation que vous lancez aux gens de vous soutenir, de faire en sorte que cet outil-là soit notre outil, que l'on se l'approprie en investissant nous-mêmes, ce qu'on est capable d'investir. Qu'est-ce que vous avez comme structure? Est-ce que c'est un... Parce que vous savez qu'il y a deux façons, hein? Il y a... Si on n'a pas tout l'argent, elle est placée en fiducie, puis vous n'obtenez rien. Si, par contre, il y a l'autre façon où vous demandez 60, vous obtenez 40, bien, c'est déjà ça de prix.
Oui.
Quelle option avez-vous choisi dans votre opération sociofinancement?
J'ai pris l'opération où ce que je vais recevoir ce qui va avoir été atteint.
OK.
Parce que... chaque dollar qui rentre en rôle peut faire une énorme différence. À ce jour, c'est les commerçants et moi-même qui avons financé le projet. Mm-hmm. Maintenant...
Parce que les commerçants payent pour être affichés sur un rôle. Oui, c'est
exactement.
Ça. Exactement. OK. C'est-à-dire, ils payent pour de la pub ou ils payent juste pour être dans le répertoire?
Non, pour de la publicité supplémentaire.
OK.
Parce que l'inscription de base est gratuite. Le but, c'est d'avoir de la donnée, un maximum de données. Donc, l'inscription de base, elle est gratuite pour que tous les commerçants s'inscrivent. Mais il y en a qui ont une accessibilité incroyable. Donc, c'est pour eux, c'est un avantage concurrentiel de se faire connaître auprès de cette clientèle-là. Uh-huh. Donc, on a des forfaits publicitaires pour eux afin de les valoriser et vraiment de les faire connaître davantage, de mettre le spotlight sur eux autres, en fait.
Ouais.
Donc, ça, c'est une partie des revenus. Le reste, bon, ben, c'est moi qui ai financé beaucoup le projet. Et la plateforme, en fait, la plateforme que je vise, premièrement, elle va être bilingue, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Deuxièmement, elle va être 100 % automatisée, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il y a encore l'entrée de données manuelle. Donc, ce n'est pas un outil qui est vraiment optimal pour le moment. Elle va être interactive. Je veux que les gens aient du plaisir à jouer avec la plateforme, à l'utiliser. Et effectivement, évidemment, elle va être accessible côté web. Et ça, c'est un gros coût dans la planification d'une nouvelle plateforme. Bon, ce n'est pas des choses que je peux faire avec la plateforme actuelle, d'où l'utilité d'avoir une nouvelle plateforme qui va être construite et pensée à la base pour être accessible au niveau des lecteurs spécialisés.
Là, ça veut dire que je dois vous faire confiance, que ce n'est pas pour acheter du nouvel ameublement pour votre salon, là.
Ce n'est pas pour acheter du nouvel ameublement pour mon salon.
Comment... Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que les gens vont me faire confiance? Parce que c'est la base du succès de l'opération, je pense.
Oui. Oui, c'est sûr qu'il y en a toujours une petite peur quand on lance une campagne comme ça. Est-ce qu'effectivement les gens vont nous faire confiance? Est-ce qu'effectivement les gens vont nous donner? Est-ce que ça va lever ou ça va faire chou blanc puis on va se ramasser avec rien? Mm-hmm. Par contre, je pense que dans les deux dernières années, on roule à prouver qu'il était là pour rester, qu'il a prouvé qu'on fait une différence. Dernièrement, j'ai été mise en nomination pour le prix à part entière de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées. Donc, quelque part, pour être en nomination, je représente Montréal, l'île de Montréal au complet en termes d'individus.
Y a-t-il de l'argent si vous gagnez?
Le dernier prix, oui, il y a de l'argent lié si je suis la gagnante nationale, okay. Mais bon, le fait que ce jury-là a décidé de me mettre comme étant en nomination signifie que quelque part, le projet amène vraiment quelque chose. Mm-hmm. Et j'ai de plus en plus d'organismes aussi qui collaborent avec le projet, tout ça. J'ai gagné le concours Ago, on change le monde au mois de juin aussi. Donc,
puis il me semble qu'il y a un an et demi aussi, là, vous aviez...
Concours québécois en entrepreneuriat.
C'est ça, vous avez le mur bardé de prix et de mérite.
On roule à gagner plus que 5 prix à ce jour, ouais. En dedans de 2 ans. Donc, j'ai pas peur que les gens me fassent confiance parce que moi, je mets mon cœur et mon âme dans ce projet-là. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a toujours la petite peur que oui, ça fasse chou blanc, là, parce qu'on demande de l'argent. Là. C'est pas quelque chose qui est évident.
Mais je le répète, ça peut être une belle occasion de s'approprier.
Oui,
cet outil-là, je veux dire, si on veut quelque chose, parfois, on investit dans un paquet de choses de notre vie, hein, dans notre look, dans notre domicile, on peut demander au gouvernement de nous aider, on peut demander aux magasins, aux commerces privés de le faire, mais on peut aussi peut-être s'impliquer nous aussi. Catherine, il me reste une minute. Est-ce que j'encourage un endroit qui est accessible ou je continue à aller là où c'est pas accessible en disant au propriétaire, tu penses pas que tu devrais le rendre accessible?
Moi, je dis encourager un endroit qui est accessible de façon à celui qui n'est pas accessible voit qu'il y a une clientèle qui va chez son voisin et pas chez lui. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, il va faire comme « Ah, il y a une raison pourquoi mon voisin, mon concurrent de clientèle que moi, j'ai pas. » Et le jour où il va comprendre que c'est l'accessibilité, il va faire le déclic par lui-même et il va faire les démarches par lui-même pour accéder à cette clientèle-là.
Ouais.
Et si je peux revenir au fait de s'approprier la plateforme, mm-hmm. c'est mon but. Mon but, c'est de créer un outil technologique que les gens peuvent s'approprier. Partager de l'information, utiliser, remplir, contribuer, que ça devienne leur outil de vie, que ce soit en termes de déplacement, de divertissement, de logement ou de ressources, mais que ce soit votre ressource, votre projet et que vous contribuez à vous-même développer votre autonomie et quelque part retrouver aussi une certaine dignité là, dans la liberté d'action.
On a jusqu'à quand?
Ça commence au 1er novembre, donc ce samedi, et ça se termine le 18 décembre, juste avant les festivités de Noël.
On se souhaite bonne chance. Catherine Blanchette-Dallaire, grande responsable d'Onroule au Québec. Tiens, Sonia Johnson, pour se détendre les oreilles, ensuite avec la présidente du conseil d'administration Kéroul, on parle de ce sommet que Kéroul a organisé et bien reçu en termes de critiques, Isabelle Duchamp.
Son corps lourd, tu marches au contre-temps, tu parles à contre-vent de l'inutile du mauvais temps. Elle court toujours trop lentement, elle court à l'amour, tu joues à l'argent. Affamée, t'as de factures, elle perd tout son argent de poche. Tu marches au contre-temps, tu parles à contre-vent de l'inutile du mauvais temps. Elle court toujours trop lentement, elle court à l'amour, tu joues à l'argent. T'es-tu à la tête infestée de tablettes où remords et poussière accumulent leurs dettes. Tu es tatoué de comptes à payer. Tu l'as perdu quand tu as tout risqué. We'll be right back. contre-temps, tu parles à contre-vent de l'inutile du mauvais temps. Elle court toujours trop lentement, mais elle court à l'amour. Ah oui, elle court à l'amour.
Ça faisait longtemps qu'on voulait causer avec Isabelle, mais on sait pourquoi Mme Ducharme était occupée la semaine dernière. Donc, c'est cette semaine qu'on revient sur ce sommet qui était dans la tête de Kéroul depuis quand même un bon bout de temps. Il me semble que ça fait 2 ans, Isabelle, que je vous entends parler de ce sommet-là.
Oui, en fait, M. André Leclerc, le président-directeur général de Kéroul, avait cette idée ou avait semé une première graine, je dirais, il y a 4 ans même. Mais ça fait 2 ans qu'on en parle concrètement, qu'on lance des invitations officielles pour des collaborations. Donc oui, c'est un travail qui dure depuis quelques années.
Vous avez reçu la visite parce que vous n'aviez pas envie de voyager cette année?
En fait, oui, j'ai voyagé quand même parce que j'ai été chercher des appuis à l'extérieur. Ouais. Fait que non, c'était vraiment l'idée... Puisque c'est un projet de Kéroul, qu'on a quand même une bonne notoriété qui a été confirmée par les gens qui nous ont appuyés là-dedans. On trouvait ça intéressant de le faire ici, ce qui ne veut pas dire qu'éventuellement la même aventure ne pourrait pas se passer en collaboration avec d'autres et ailleurs. C'est des choses à évaluer. Mais je pense qu'on a été perçus comme des bons hôtes.
Bien, sûrement.
Écoutez, c'est quand même presque 300 personnes qui se sont présentées au rendez-vous. Un petit peu plus que 120 conférences, des gens de 30 pays différents. Mais ce qui était aussi très intéressant pour nous, c'est des appuis de taille qu'on a eus, comme des représentants de l'Organisation mondiale du tourisme, de l'Organisation internationale du tourisme social, de l'ONU. Donc, il y avait quand même des grands joueurs qui étaient là. Et comme co-président, on avait le président de l'ENAT, le European Network of Accessible Tourism. Et donc, voilà, je pense que tout ça, tout combiné ensemble, a fait qu'on a eu des conversations très intéressantes, stimulantes, et qui devraient mener vers l'objectif premier qui était de le sommet se veut un sommet pour passer à l'action. On a vu beaucoup à l'international différentes rencontres qui se font, soit pour le tourisme en général ou pour chacun des 3 piliers, parce que le sommet comme tel avait 3 piliers de discussion, c'est-à-dire le tourisme, le transport et la culture. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on discute de ce qu'on fait bien, on vient présenter ce qu'on fait, mais ça reste là. Il n'y a pas d'action concrète pour vers un développement commun.
Mais somme toute, ça se voulait un think tank d'idées qui ensuite, si elles sont applicables chez moi, je ramène et je mets en action chez moi?
Un peu, oui. En fait, on invitait les gens qui ont des bonnes pratiques à venir les présenter pour justement partager et voir comment ça pourrait s'appliquer chacun chez nous. Mais comme je vous disais, comme il y a une volonté d'action, à la fin, on a demandé aux gens de signer une déclaration. Donc, c'est plus officiel, un engagement plus officiel vers « moi, je vais m'impliquer pour m'assurer que le développement de l'accessibilité touristique se fasse » et non pas juste « ben, ce serait le fun ». Donc, cette déclaration-là qu'on a appelée « Un monde pour tous », parce qu'on inclut pas seulement les personnes qui ont des limitations, mais aussi les familles, les personnes âgées, toute personne qui voudrait voyager. Donc, on voudrait que chaque développement qui se fait, quand une destination décide de s'ouvrir à tous, bien qu'elle inclut tous, qu'il n'y ait pas d'exception dans le domaine du possible.
Savez-vous si un des ministères québécois a posé sa signature sur cette déclaration-là? Justement pour dire oui, nous allons passer à l'action?
Ben le au niveau
ministère du tourisme, quelque chose.
Oui, ben, c'est ce que j'allais dire. La ministre du Tourisme est venue parler en introduction et donc oui, appuie cette démarche. D'ailleurs, le ministère du Tourisme nous a appuyés et dans le développement et dans le dans toutes les étapes de ce sommet-là. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont signé à tous les niveaux, je vous dirais, autant au niveau d'engagement d'organismes, des engagements de pays. Il y a quand même eu une variété de signatures et cette déclaration-là, elle est encore, elle tourne encore pour obtenir le plus de signatures possibles de gens qui s'engagent. Même qu'en ce moment, on a des gens qui faisaient partie de la discussion et de l'évolution de cette déclaration-là qui en prennent la version finale qui a été déposée la dernière journée du sommet et la traduisent dans différentes langues pour s'assurer qu'elle soit justement prise en considération par le plus grand nombre de nations possibles.
Isabelle, à la lumière du reportage de la facture, je me suis posé la question où vous aviez couché votre monde. Parce que pour rappeler aux gens, bon, la facture, la semaine dernière, sur les ondes de Radio-Canada, rendait compte d'une réalité que bien des gens savaient, mais qu'on a chiffrée, à savoir qu'aucun hôtel de Montréal ou de la région ne rencontrait les lois sur le nombre de chambres accessibles, à savoir 10 %. Et ça tombait bien parce qu'on l'a diffusé justement la semaine du sommet. Avez-vous eu des difficultés à stationner votre monde puis à leur offrir des conditions accueillantes?
Oui, bien en fait, je voudrais d'abord préciser que bien des gens nous ont posé la question. Cette émission-là de la facture, oui, elle est passée pendant le sommet, mais ce n'est qu'un addon là, qui roule, n'a rien eu à voir là-dedans. Et la journaliste aussi qui avait préparé ce topo-là n'était pas au courant du sommet au moment où la date de diffusion a été décidée.
Ouais.
Donc, on n'a pas fait exprès. L'autre chose, c'est effectivement, c'était complexe de pouvoir installer tous ces gens-là qui voulaient participer au sommet. Il a fallu s'y prendre, relocaliser des gens justement parce qu'il y avait des manquements, là, des choses qui avaient été mal identifiées mm-hmm. ou mal comprises par les hôteliers. En bout de ligne, on a réussi quand même à ce que tout le monde soit bien installé en bout de ligne, mais il reste qu'effectivement, c'est une grande lacune et c'est une lacune qui est vraie dans beaucoup de cas. On a beaucoup, beaucoup de demandes de l'Europe, entre autres. Souvent, ils vont voyager en groupe. Donc, il y aura plusieurs personnes en fauteuil roulant. Et la majorité du temps, on est obligé de leur dire « Oui, vous pouvez, mais vous ne pourrez jamais être tous dans le même hôtel.
Ouais, » ouais.
Alors que si on respectait le minimum qui est demandé, on pourrait le faire. Là.
Est-ce qu'il y a des suites, peut-être, qu'on pourrait proposer aux hôteliers? Est-ce qu'on peut se servir de cet événement-là pour justement leur montrer que, un peu comme Mme Galland, la semaine passée, nous disait, il y a de l'argent à faire.
Mm-hmm. Oui, en fait, ça fait partie, je vous dirais, du discours qui se développe depuis quelques années.
Mais là, il y avait preuve à l'appui, là.
Exact.
Ouais.
Donc, il y a non seulement un discours qui dit, écoutez, là, c'est pas juste une raison sociale, c'est pas juste pour vous calmer la conscience ou pas, mais c'est vraiment qu'il y a de l'argent à faire là. Donc, mm-hmm. le discours déjà change quand on dit aux gens, on parle de l'importance de se rendre accessible. Et effectivement, des événements comme celui-là, où on a eu de la difficulté à localiser les gens, où on a eu de la difficulté à avoir les véhicules appropriés quand on aurait voulu faire un tour guidé, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va nous appuyer dans nos démarches pour démontrer que c'est pas juste un luxe ou c'est pas juste on va le faire puis ça servira pas à personne.
Oui, et qui sort gagnant de ça? Quel hôtel sort gagnant si on pouvait sortir des chiffres pour que, justement, le premier voit que ça valait la peine d'investir et les hôtels en queue de palmarès vont peut-être eux aussi réagir. Isabelle, j'ai vu qu'il y avait quand même de la couverture. Il nous reste une minute et demie. J'ai entendu Michel et Maxime chez Catherine Perrin. J'ai vu un ou deux articles de journaux. Est-ce que vous êtes... Bon, vous étiez à RDI très tôt un samedi matin. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture ou vous auriez souhaité... Bon, on veut toujours mieux, là, mais êtes-vous satisfait?
Non, je trouve qu'on a quand même été bien couverts. J'imagine que... pour une fois, peut-être que les tweets de M. Coderre qui était à la cérémonie d'ouverture nous auront peut-être aidé un peu. L'appui définitif de Radio-Canada qui a été vraiment d'une grande collaboration dans les possibilités là, d'avoir des entrevues. Le fait que Penelope McQuaid était à la cérémonie d'ouverture comme animatrice, je pense que ce sont tous des choses qui nous ont aidés. On a même pu avoir des entrevues avec différentes radios de Radio-Canada à travers le Canada.
Ouais, c'est bien.
Donc, ça a été quand même intéressant. On est quand même satisfait.
Mais tant mieux. C'est bon de voir que la...
Moi, je vous dirais,
la radio publique a fait son mandat.
Juste avant qu'on quitte, là, moi, l'autre partie où je suis très fière aussi, c'est que nous avons eu en ouverture Lazy Legs qui est venu faire un spectacle, donc ça lui a donné à lui une belle
visibilité.
Et à nous, on était contents de l'impliquer là-dedans. Et on a eu toute la semaine, il y avait des exposants, des artistes qui font des œuvres, mais qui avaient différents types de limitations, là, de la surdité à la personne aveugle, à la personne avec une déficience motrice. Et même une artiste autiste.
Ouais. Une de celles qui était comme conférencière présente au sommet, c'est Marie-Josée Blanchette de la Fédération des pourvoiries du Québec. Elle vous a présenté un peu comment la Fédé veut accentuer l'accessibilité. On lui parle dans 2 minutes. Merci beaucoup, beaucoup, Isabelle.
Ça fait plaisir.
Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration chez Kéroul. Je vous invite à rester là. C'est à vous de décider si vous allez le faire. Mais oui, on va causer avec Marie-Josée. Et tout de suite après, Normande Gagnon, qui, elle, est la fondatrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Madame a plus de 80 ans et vous allez voir, c'est un parcours, mais vraiment pas banal. À la régie, Jean-Sébastien Laliberté, qu'on est très content de retrouver.
Ça vaut le détour.
Avec Kamal Salifou, Jean-Sébastien Laliberté à la régie, également Pauline. Pauline, que dis-je? C'est parce que j'écoutais Marianne qui nous parlait de Pauline Gill. Céline Gargano qui est à la recherche. Mon nom est Luc Fortin et au bout du fil, Marie-Josée Blanchette, directrice de la classification et des services administratifs. Merci, Kamal. Bonjour, Marie-Josée. Moi, je la connais sous le prénom de Marie-Josée, qui est fort sympathique chaque fois qu'on se cause. Vous allez bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, merci beaucoup. Vous avez, vous, dans votre voix, plutôt le ton de celle qui travaille au grand air que celle qui travaille dans le bureau. Il me semble que vous devez profiter des pourvoiries du Québec.
Disons que j'essaie de faire du 50-50.
Bien, on en est bien content pour vous.
Ouais, on ne saurait me blâmer, hein, des belles places comme ça. Ça vaut l'effort d'aller faire un tour dehors.
Oui, et à chaque fois que je parle à Marie-Josée, elle me dit « Ah ben là, cette journée-là, je suis sur le terrain, alors je pourrais pas te parler.
» Effectivement, ça a été un peu dur de se rejoindre certains temps.
Vous aviez le mandat la semaine dernière au sommet organisé par Kéroul de parler un peu de l'élaboration d'un plan d'accessibilité pour rendre les pourvoiries du Québec de plus en plus accueillantes. J'ai envie que vous me dressiez les grandes lignes. Déjà, ce que je remarque, c'est que 33 pourvoiries ont été visitées.
Oui, exactement. On a fait une visite de plus d'une trentaine de pourvoiries un peu partout, toutes réparties dans toutes les régions du Québec, excepté le Grand Nord, bien sûr, afin de les aider et de leur faire un portrait de leur niveau d'accessibilité actuel et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour... augmenter ce niveau d'accessibilité-là. Là.
Lorsque vous dites « on les a visités », est-ce qu'ils savaient que vous y alliez?
Absolument.
OK. Est-ce qu'on vous a accueilli ou vous avez contacté ou Kéroul a contacté en disant « nous aimerions aller voir ce que vous offrez comme accès »?
Mais regarde, le plan d'action a été élaboré sur 3 ans. Bien sûr, ça dépendait des réponses qu'on allait avoir au sondage. Tout a commencé avec un sondage auprès de nos membres. On a près de 330-340 membres, nous autres, annuellement. Donc, on a fait un sondage pour aller tenter l'intérêt des pourvoyeurs à ce niveau-là, au niveau de l'accessibilité en pourvoirie. Puis, on a eu un taux de réponse satisfaisant qui nous a dit qu'il est intéressé à connaître soit leur degré d'accessibilité ou qu'est-ce qu'ils ont à faire pour l'améliorer puis développer des produits pour cette nouvelle clientèle-là. Ouais. Donc, suite au sondage, c'est ça qui nous a amené à aller sur le terrain. Fait que ça provenait un peu d'eux, là, leur demande à eux.
Sur les 340, comment avez-vous choisi les 33 pourvoiries à visiter?
Ah, c'est ceux qui ont été intéressés, là.
OK.
Ils ont été intéressés, bien sûr, au fur et à mesure que les années passaient, parce qu'on a eu un petit peu plus qui étaient intéressés que ça. Plus ça allait, nous autres, c'est sûr qu'on leur parlait au niveau du téléphone. Ils ont eu accès à des critères d'accessibilité aussi, la première année qu'on a élaboré conjointement avec Kéroul, adapté pour notre milieu, parce qu'on est dans le bois, là, on n'est pas accessible par asphalte et tout, donc on a adapté les critères un peu. Donc, il y a certains pourvoyeurs, bien sûr, en regardant les critères, qui ont fait « Oh my God, je suis vraiment très, très loin d'atteindre ça ouais. », donc qui se sont éloignés de la démarche un peu, mais sinon, on essayait de visiter toutes les pourvoiries qui étaient intéressées. Là.
Y a-t-il, Marie-Josée, des pourvoiries qui, justement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas vraiment accessibles, ont voulu profiter d'une visite pour voir qu'est-ce que l'on peut faire?
Absolument.
OK.
Absolument. Il y en a plusieurs, même. Puis ça, c'est dans les deux... C'est dans les deux aspects aussi. Là. Il y en a qui, au sondage, nous avaient dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Puis finalement, plus on en a parlé, parce que ça fait 3 ans qu'on leur en parle, bien finalement, ils disent, hey, ben, viens me voir quand même, puis je veux que tu me dises qu'est-ce qu'on a à faire.
Qu'est-ce que ça représente? Je sais que pour certains édifices commerciaux, il y a des subventions qui peuvent être attribuées. Est-ce que pour le tourisme, c'est la même chose? Est-ce qu'une pourvoirie est considérée comme établissement touristique ou un sport?
Non, c'est très difficile. Puis c'est un peu notre cheval de bataille qu'on va faire, qu'on va prendre, puis qu'on va essayer de travailler pour les prochaines années. Ils peuvent avoir des crédits d'impôt, mais ils n'ont pas de subvention ou d'aide en particulier pour la rénovation d'unités d'hébergement. Fait que c'est là qui est très difficile. C'est le point majeur pour les pourvoyeurs parce qu'effectivement, les unités d'hébergement sont déjà existantes. Fait que de rénover, c'est beaucoup de sous. C'est sûr que les pourvoyeurs, puis ça, c'est un autre point qu'on travaille beaucoup aussi, c'est pour les nouvelles unités d'hébergement, ceux qui construisent, bien, qui essaient de les construire tout de suite à la base avec les critères. Puis, mais pour la rénovation, c'est extrêmement dur, là. C'est extrêmement onéreux pour les pourvoyeurs. Autant pour l'unité d'hébergement que pour l'aménagement, pour les activités aussi. Là, t'sais, le quai n'est pas assez large, il faut grossir le quai, le sentier est trop abrupt, t'sais, fait que ça prend beaucoup d'investissement.
Même les embarcations, je veux dire, comment transférer une personne du quai à l'embarcation, c'est une chose lorsque tu es paraplégique et que tu peux vraiment utiliser tes bras, mais lorsque tu es en fauteuil électrique, c'est peut-être beaucoup plus compliqué.
Exactement. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Kéroul. Un autre point, c'est la formation du personnel en pourvoirie pour les aider, leur donner des trucs sur tout ce petit aspect-là. C'est sûr qu'être totalement accessible pour une pourvoirie.
C'est pas possible.
On s'entend, ça va être très difficile.
Ouais, ouais.
Mais la volonté et la passion que les gens ont sur le terrain pallient souvent à beaucoup de petits manques d'accessibilité. Ils sont tellement ouverts, ils sont tellement généreux de leur personne qu'ils vont tout faire pour faire vivre une belle expérience aux gens. Fait que des fois, ça l'atténue un peu le fait que, bon, OK, l'embarcation n'est pas 100% accessible ou la manière de transférer, mais il y a tellement de bon vouloir des gens qui travaillent en pourvoirie qui réussissent quand même à embarquer la personne puis à faire vivre une expérience super, super intéressante.
Est-ce qu'il y a des moments charnières où vous pensez que l'on peut contacter une pourvoirie et que les propriétaires seront peut-être un peu plus réceptifs à apporter certains correctifs? Je pense, entre autres, parce que je voulais pas le mettre en bouche, là, parce qu'on dit, Luc, c'est important de poser des questions ouvertes, mais la semaine dernière, quand je parlais à Mme Galland de l'Auberge des Galands, elle me disait, c'est suite à un incendie que là, tant qu'à reconstruire ou modifier, on s'est dit, parce qu'on était déjà sensibilisé par Kéroul pour diverses raisons, on va le faire correctement cette fois-ci.
Oui, bien, je comprends que c'est ce que je disais un peu tantôt, c'est sûr que La facilité, le moyen le plus facile, c'est vers les nouvelles unités d'hébergement. Quand un pourvoyeur veut agrandir ou construire une nouvelle unité, c'est toujours plus facile.
Ouais.
Je pense qu'il ne faut pas qu'on attende ça.
Non.
Parce que sinon, les pourvoyeurs n'augmentent pas leur capacité d'accueil à chaque année, tu sais. Mais c'est sûr que c'est des éléments plus faciles. Lors d'un feu, une intempérie, on change, on modifie, ou bien on a vraiment, le pourvoyeur a vraiment une nouvelle vision, puis il décide de mettre à terre une unité d'hébergement, puis de la rénover au grand complet, là. Mais il n'y a pas vraiment de moment, je pense qu'il ne faut pas attendre, là, le pourvoyeur. Il y a des petites choses qu'ils peuvent faire pour le rendre partiellement accessible. Comme on dit, la pourvoirie est accessible à 100%, elle va être extrêmement rare,
ouais.
Mais le partiellement accessible, il est accessible.
Marie-Josée, ça cadre où dans votre travail et dans la mission de la Fédération des pourvoiries du Québec que cette accessibilité universelle dans le milieu des pourvoiries? J'entends par là que il y a des mandats que l'on a, mais qui sont parfois malheureusement un petit peu sous la pile parce qu'on a tellement de choses à faire. Quand ça donne, on en parle.
Oui. Écoute, moi, en étant directrice de la classification, ça me touche doublement plus parce que je gère toutes les unités d'hébergement. En fait, j'aide à classifier, donc ça rentre dans nos critères de classification, puis on travaille ça de plus en plus. La Fédération, c'est sûr que nous autres, notre clientèle est vieillissante. Quand on parle de personnes à mobilité réduite, bien sûr, on a des chaises roulantes, c'est vrai, mais on a aussi des personnes âgées, là. Puis ça nous touche directement notre cœur à nous autres, à notre clientèle. Fait que c'est un point important à la Fédération. Je vous dis pas que, comme je vous dis, c'est pas de l'accessibilité pour les chaises roulantes qui va prioriser l'ensemble de nos actions ici à la Fédération. Mais tous les petits plus qu'on peut donner à la clientèle âgée, ou à mobilité réduite, justement, pour les quais et tout, c'est quelque chose qu'on travaille. Puis c'est une grande importance parce que notre clientèle est vieillissante. On passe par là, tout le monde, je pense, au niveau touristique aussi. Là.
Il y a un segment des pourvoiries qui plaît aux Européens. Est-ce qu'on a déjà constaté que, justement, certaines pourvoiries plus accessibles que d'autres vont chercher une portion de la clientèle où c'est tellement négligeable que ce n'est pas encore un élément pour convaincre?
Non, ce n'est pas encore considéré à ce point-là. C'est sûr que ça fait 3 ans qu'on travaille avec Kéroul. On fait notre petit bonhomme de chemin au niveau de l'accessibilité. C'est sûr qu'on commence à en démarquer tranquillement. Il reste des petits points qu'on veut qu'ils améliorent aussi pour pouvoir en publiciser l'accessibilité aussi, là. Mais les Européens sont approchés d'un autre aspect du marketing que pour l'accessibilité pour l'instant, là.
Oui. L'hiver. Bon, lorsque on a contacté la Seigneurie du Triton, on a constaté qu'il ne pouvait, qu'il n'offrait pas de service 4 saisons. Est-ce qu'il y en a des pourvoiries qui sont, somme toute, assez accueillantes pour la personne à mobilité réduite 4 saisons par année?
Encore là, on a énormément de pourvoiries qui sont accessibles, qui sont ouvertes à l'année. De là à dire, est-ce que j'en ai des accessible ou partiellement accessible.
Parce que lorsque je vous ai contacté la première fois, vous m'en aviez donné 3 ou 4 là, que vous me disiez, ceux-là, vraiment, là, on ne peut pas se tromper. Mais je ne me souviens pas si elles étaient... à part le Triton, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont 4 saisons?
Il y en a une qui l'est, mais de là, comme je vous dis, il reste des petits points. C'est eux qui sont le plus en voie de devenir partiellement accessible. Fait que ça, c'est toujours la petite garde qu'il faut qu'on garde en tête, là. Mais effectivement, il y a des pourvoiries hivernales qui sont en train de travailler l'accessibilité puis qui vont finir par l'être, du moins partiellement.
Oui. Donc, on se souhaite des programmes gouvernementaux, des incitatifs qui vont aller au-delà là, du crédit d'impôt. Est-ce que du côté fédéral, il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher ou c'est vraiment strictement provincial?
Non, on regarde au niveau fédéral également.
Également.
Oui, absolument. On travaille sur les 2 paliers. On travaille fort avec Kéroul là-dessus.
OK. Est-ce que l'aspect accessible est identifié sur le site de la Fédération ou il faut vraiment aller sur le site de Kéroul?
Non, il va l'être absolument sur la Fédération et sur Kéroul. Une fois qu'on va être en mesure de pouvoir vraiment l'afficher, là, comme je vous dis, il y en a 3 à 4 qui vont être partiellement accessibles vraiment très bientôt. Actuellement, ils ne sont pas encore affichés parce qu'on attend 2 petits détails avant de pouvoir les afficher. Mais une fois que tous les critères vont être remplis, ça va être affiché sur le site de la Fédération. Vous allez même pouvoir en faire des recherches avec le planificateur de vacances, ainsi que sur Kéroul.
En 15 secondes, les régions qui sont peut-être un petit peu mieux représentées si je veux sortir en termes d'accessibilité?
Pour l'instant, c'est les régions relativement proches.
Lanaudière, Laurentide.
Oui, exactement. Même une partie de Mauricie, là. Puis, on développe quand même Charlevoix puis le début de la Côte-Nord là, qui travaille fort là-dessus. Là, mais,
merci, ouais. Marie-Josée Blanchette.
Ouais, mais ça me fait plaisir.
Marie-Josée, qui est directrice des classifications, entre autres à la Fédération des pourvoiries du Québec. Yesterday, the sky looked sweet. When we dropped a big bomb at our feet. And sometime soon, we all might zoom to space and continue with another zoom. Work and pace for paper face. Spend it wisely and keep it safe. Because the human race is a non-stop race. With too many trials, but no real case. Something about this second, something about this hour. I take away the money, then the time becomes the power. A moment just to swim and to shower and to sing. And to brighten and to dim and to sleep and to wander in nothing. Oh, sweet nothing. Today we're doing nothing at all. La 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 la. Oh 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 ah. Ay, 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 ay. Yesterday I climbed a hill, then cycled down speedy on a great big wheel. Feeling ill, labored still, grinding and stressing in that giant mill. Drove a car, stop and start, round and round in circles, never got too far. Running barefoot on the hot, hot tar, cause if you stop then you burn, then your feet get scars. Something about this instance, something about this minute, striving for the future but don't realize that we're in it. A moment just to float, to ponder and to dote, to dry and to soak and to take a little coke of that nothing. Sweet nothing. Today we're doing nothing at all. La 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 la. Whoa, oh 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 ah. Ay 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 ay. Bonjour Normande Gagnon. Karine Villeneuve m'a donné tellement de bonnes raisons de vous parler.
Oh, merci.
Normande, qui est la fondatrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Vous avez fondé début des années 80 à peu près?
76.
76. Puis l'idée vous est venue de quelle façon?
J'étais dans le domaine du spectacle. Alors, avec mon partenaire, j'étais acrobate. Alors, je faisais le tour de la province. Alors, à chaque endroit, un petit village, on s'informait, mon partenaire et moi, s'il y avait des personnes de petite taille. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Les premières années ont plutôt été le recrutement.
Oui. Aujourd'hui, Normande, on n'accepterait plus vraiment une personne de petite taille se donner en spectacle. Qu'est-ce qui a changé?
Ben, pourquoi pas?
On dirait que c'est mal vu, on dirait que...
Ben, ça dépend du spectacle, là.
Allez-y.
Moi, j'avais un acte d'acrobate. Alors, je vois pas quel mal il y a d'en faire de l'acrobatie. Premièrement, c'est la santé. C'est une vie qui est très... sévère. Dans le sens, pas de boisson. On mange pas n'importe quoi. C'est une... C'est très, très discipliné. Par contre, oui, je sais qu'il y en a qui ont eu des difficultés dans le sens d'être ridiculisés, des choses comme ça, mm-hmm. mais c'est pas mon cas.
Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas une personne de petite taille, on vous aurait embauché aussi facilement?
Ben c'est drôle. Je crois que mon partenaire recherchait justement... une personne de petite taille pour faire de l'acrobate avec lui. Puis c'est, je crois que ma destinée était là, moi.
Comment tout ça a commencé? Est-ce que déjà à l'école, vous étiez quelqu'un qui avait la bougeotte?
Ah, pas du tout.
Non?
Pas du tout. Moi, j'ai eu une vie très belle. J'ai eu une enfance extraordinaire. J'ai eu des bons parents. Je suis la 18e d'une famille de 19 enfants.
C'est vrai, j'avais oublié ce détail-là.
Et j'étais choyée. Et j'étais chanceuse parce que dans les années que je suis venue au monde, on aurait pu me cacher dans le garde-robe, comme on dit.
Justement,
au contraire, on était fiers de moi. Ouais. Puis j'ai été beaucoup aimée.
Parlez-moi de l'évolution.
La même chose.
Parlez-moi de l'évolution de la personne de petite taille, de la société, de son point de vue. Et justement, bon, vous avez, grâce à vos parents, contribué à faire en sorte que le regard change.
Bien, c'est ça. Moi, tout en faisant carrière, puis en faisant le tour du Québec, puis pas seulement du Québec, là, du Canada. Je rencontrais des personnes de petite taille qui étaient très malheureux. Vous savez, là, les complexes là, des personnes, ça n'a pas besoin d'être des personnes de petite taille.
Bien sûr.
N'importe quelle différence, c'est les parents qui nous donnent des complexes. Fais pas ça, t'es pas capable. Tandis que moi, c'était tout le contraire.
Qu'est-ce qui explique ça? Justement parce que c'était une grosse famille et on n'avait pas le temps de chouchouter?
Au contraire. Moi, j'étais très chouchoutée.
Ah oui?
Parce que j'étais très bien entourée. D'ailleurs, hier, j'ai perdu ma mère, j'avais 12 ans. Mmh. Mais ça m'a pas tellement attaquée. Parce que je restais avec 4 de mes frères, mon père... mes sœurs, pour me gâter puis pour m'aimer. Alors...
Ouais. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à parler d'accessibilité universelle, bien que on constate qu'on dirait que l'accessibilité universelle ne pense pas toujours à la personne de petite taille. Mais parlez-moi des premiers trucs, des premières adaptations qui, tranquillement... ont été plus répandus pour faciliter la vie, le quotidien?
Vous parlez de l'association en même temps?
Ben, ça peut être l'association, ça peut être la société ou ça peut être des inventions. L'évier pas sur le côté dans le temps, alors qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi vos trucs au départ?
Moi, j'ai fondé l'association, c'est ça, justement, parce que j'en voyais qu'ils étaient malheureux. Et on était juste un petit groupe au début, là. Mais par contre, depuis que l'association existe, on a notre souper de Noël. Ça a toujours existé. Après ça, on a eu d'autres choses, d'autres activités. Par contre, On était seulement une 10-12 quand on a commencé.
Au départ, ouais. Revenons dans le temps, l'automobile, les premiers automobiles qui étaient adaptés, ça remonte à quand dans votre vie, là, que vous avez vu quelqu'un qui pouvait conduire sa voiture?
Pas dans les premières années.
Sûrement pas, non.
Non, absolument pas.
Mais ça remonte à quand environ?
Je sais pas au juste, mais je sais que l'association a beaucoup aidé. Ça fait quand même quelques années, là.
Mm-hmm. Lorsque vous vous promeniez avec votre collègue...
Moi, j'avais mon chauffeur privé, oui.
Oh là là!
Mais j'ai jamais senti le besoin de conduire.
Mm-hmm.
Ça m'a jamais manqué.
Puis d'un hôtel ou d'une auberge à l'autre, il fallait toujours s'adapter.
Oui, bien moi, j'ai été élevée dans l'hôtellerie. Un peu plus tard, j'avais 15 ans, mes frères ont acheté un hôtel où je demeurais à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Puis c'est ça qui m'a aidé beaucoup à foncer. Puis mes frères me laissaient la responsabilité de l'hôtel. Alors, j'étais jeune, puis j'avais déjà des responsabilités.
Comment
Alors,
vous
ça m'a aidé beaucoup. Même, j'allais dans la taverne. Quand le waiter allait prendre son dîner, c'est ça qui m'a rendu n'importe quel hôtel. Par la suite, j'étais chez moi.
Donc, vous étiez la seule femme dans la taverne, parce que les femmes étaient exclues, là.
Oui, j'allais pour aider. J'allais remplacer le waiter pour l'heure du dîner.
Uh-huh. Qu'est-ce qui reste à faire, Normande Gagnon? Qu'est-ce que vous voudriez voir continuer et changer aujourd'hui en 2014?
Bien, c'est de plus en plus... comment je vous dirais ça? Faut être connu encore plus.
Oui.
On n'est pas assez connu. On n'existe pas assez par les médias, la télévision, des choses comme ça. Parce que moi, ce qui me fâche quelquefois, on dit « Ah! Oh, on pensait que ça n'existait plus, les personnes de petit œil qui les faisaient grandir maintenant. » Je trouve ça tellement ridicule quand les gens nous disent ça.
Ouais.
J'en crois pour mes oreilles. Là.
Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la visibilité, selon vous?
Bien, c'est ça. C'est d'aider à être plus connu puis d'être plus accepté. Mais ça a beaucoup changé, là. C'est les gens qui ont des mauvais regards ou des choses comme ça. Vous savez, il y a toutes sortes de gens. Et il y en a que ça manque d'éducation ou des choses comme ça. Parce qu'on n'a n'importe quelle différence, hein, ça n'a pas besoin d'être toujours les personnes de petite taille. Hein?
C'est sûr. Est-ce que, disons, la chose dont vous êtes le plus fier avec l'association?
Ben, premièrement, c'est de l'avoir fondée.
Oui, hein, c'est son existence.
Puis, c'est d'avoir aussi, en parallèle, avoir une comme une branche avec l'association pour les parents des personnes de petite taille.
Mm-hmm.
Ça a donné un boom extraordinaire à l'association, parce que les premières années, on était toujours les mêmes personnes, puis on végétait un peu.
Ouais.
Mais à un certain moment, il est arrivé une femme avec son fils qui avait 12 ans, de petite taille. Il avait besoin d'une opération aux hanches ou aux jambes. Puis elle était complètement paniquée, elle savait pas à qui se vouer. Puis c'est là qu'on a vu que les parents avaient besoin d'aide.
Ouais, ouais.
C'était pas juste nous autres, notre petit groupe.
Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Normande Gagnon, qui est la fondatrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Et en terminant ce mois du nanisme, qui est le mois d'octobre, on se disait, il faut absolument faire un retour là-dessus. D'ailleurs, dans l'émission Accélib, si tout va bien, nous aurons une table ronde sur le même sujet. On collaborait à cette émission, entre autres, à la mise en onde Kamal Salifou, Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche Lynn Gargano, médias sociaux, Claudia Benoît, Et Louise Vient, qui est la directrice de Canal M. Canal M, d'ailleurs, que vous pouvez joindre facilement via le canalm.org. Mon nom est Luc Fortin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Écrivez-nous, soulignez votre intérêt à un sujet ou à un autre. 282-1999, poste 220, dans le 514, ou 1-800-361-0635, poste 220. À bientôt!